Après les trois coups, le rideau s'ouvre. Les comédiens sont là, tapis dans l'ombre. Tous en scène, l'émission de Prune sur l'histoire du théâtre. Rencontre avec un auteur, extrait de pièces, interview, clin d'œil de la comtesse Rostropovitch, actualité de la scène nantaise. Anna vous entraîne chaque deuxième samedi du mois, de 12h à 13h dans les coulisses des théâtres d'ici et d'ailleurs, sur Prune 92 FM et en DAB+ sur Saint-Nazaire.
Bonsoir, on est ensemble pendant une heure dans Tous en scène, l'émission de Prune sur l'histoire du théâtre. Tous en scène, c'est une heure pour découvrir un dramaturge phare de l'histoire du théâtre à travers l'une de ses pièces. L'émission d'aujourd'hui sera consacrée à Marguerite Duras et sa pièce « Savannah Bay », écrite pour Madeleine Renaud. Nous vous proposerons des lectures d'extraits de la version créée au Théâtre du Rond-Point le 27 septembre 1983 avec Madeleine Renaud dans le rôle de Madeleine et Bulogier dans le rôle de la jeune femme, dans une mise en scène de Marguerite Duras, elle-même, assistée de Yann Andrea, son fidèle compagnon. Tous en scène, ce sont trois rubriques encadrant la pièce choisie. Pour débuter l'émission, un survol biographique de Marguerite Duras, suivi de la lecture de plusieurs passages de sa pièce « Savannah Bay ». Puis aujourd'hui, une interview de Marine Breton, professeure de lettres histoire-géographie au lycée professionnel Louis-Jacques Goussier à Rezé, et également très engagée en ce qui concerne la transmission théâtrale en milieu scolaire, puisqu'elle est l'une des membres du comité de pilotage de l'association Comet à Nantes, qui est l'acronyme de Communication, Expression, Théâtre, Éducation. Ensuite, une chronique légèrement décalée à travers le clin d'œil de la comtesse Rostropovitch, scande la pièce choisie. Enfin, une ouverture sur l'actualité de la scène nantaise permet de terminer cette parenthèse théâtrale du deuxième samedi de chaque mois de 12h à 13h. Tous en scène, c'est donc parti avec, comme première rubrique, l'éclairage biographique.
Éclairage biographique dans Tous en scène sur Prune 92 FM en compagnie d'Anne.
Profil protéiforme qu'est Marguerite Duras, à la fois femme de lettres, dramaturge, scénariste et réalisatrice française, mais aussi femme engagée dans les combats de son siècle, que ce soit la Seconde Guerre mondiale, la décolonisation, la guerre d'Algérie, mai 68, le manifeste des 343 salopes, signé par 343 Françaises ayant eu le courage, le 5 avril 1971, d'apposer leur nom à une pétition française parue dans le magazine Le Nouvel Observateur pour dépénaliser et légaliser l'interruption volontaire de grossesse en reconnaissant s'être elle-même faite avorter et en s'exposant à des poursuites pénales pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement. Je vous rappelle, chers auditeurs et chères auditrices, que le droit à l'avortement n'a été reconnu en France que le 17 janvier 1975 par la loi Veil, que l'on doit à Simone Veil, alors ministre de la Santé sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing. En juillet 1985, elle prend position dans l'affaire Grégory contre Christine Villemain, la mère de l'enfant dont elle semble convaincue d'infanticide. C'est dire la diversité des combats qu'elle aura menés. Mais revenons au début de ce parcours. Marguerite Donadieu, dite Marguerite Duras, est née le 4 avril 1914 à Saigon, en Cochinchine, et est décédée le 3 mars 1996 dans son appartement au 5 de la rue Saint-Benoît, dans le 6e arrondissement de Paris. Cette petite rue, qu'est la rue Saint-Benoît, donne sur le boulevard Saint-Germain, à l'angle de l'ancienne librairie La Une, qui était située exactement au 70 boulevard Saint-Germain. Si je m'attarde sur ce lieu, c'est que cette librairie parisienne avait pour particularité de rester ouverte une partie de la nuit. On pouvait donc aller acheter jusqu'à une heure avancée un livre à la sortie d'un cinéma, d'une salle de spectacle, d'une cave jazzy ou d'un restaurant entre amis, pour s'endormir en bonne compagnie avec un livre en main. Ce temple des livres a été vendu en 2012 à l'enseigne de luxe Louis Vuitton, qui en fait son flagship, littéralement le vaisseau amiral, entendez le lieu d'exposition de son produit vedette. Je vous laisse apprécier l'évolution des lieux. Certes, en ces temps de replay à tout va, il est sans doute loin le temps où l'on passait des nuits entières à lire et à s'instruire pour affiner notre jugement personnel et pour ne pas se contenter de reprendre la parole des autres à notre compte, sans s'être donné le temps de l'assimilation personnelle. Mais je suis bien critique, puisque l'on nous dit qu'en ces temps de confinement que nous vivons, la Covid-19 oblige, il apparaîtrait que les Français se sont remis à lire plus que jamais, délaissant sans doute l'abrutissement quotidien que nous offre l'image à outrance sur nos écrans en tout genre, à tel point qu'on ne distingue parfois même plus fiction et réalité, comme en témoigne le nombre de séries et de films qui ont besoin de prendre appui sur des faits historiques pour nous retracer la vie de grandes figures de l'histoire et également notre aptitude à nous laisser berner par les nombreuses fake news qui circulent ici et là. À tel point que nous devons maintenant enseigner à l'école l'art de repérer les fausses informations. Cela, une fois encore, prouve bien que la lecture favorise le discernement et c'est bien pour cette raison que fleurissent dans les établissements scolaires la lecture à voix haute et les concours de lecture en tout genre, prônant l'art de l'éloquence que nous avons bel et bien perdu en ces temps de chiens savants que nous fabriquons parfois bien malgré nous. Mais je m'éloigne encore une fois de notre propos. C'est donc entre le café de Flore et celui des deux Magots, face à la brasserie Lip, juste derrière la place Saint-Germain-des-Prés, au lieu de la culture germano-pratine, qu'a vécu Marguerite Duras pendant plus de 50 années entre 1942 et 1996. Alors pourquoi ce changement de nom, me direz-vous ? Eh bien, elle tient son nom dans une telle horreur, pour reprendre sa formulation, qu'elle va abandonner le nom de son père en 1943, lors de la publication de son premier roman, Les Impudents, et elle opte alors pour celui de Duras. Ce choix de pseudonyme lui vient du nom du village du Lot-et-Garonne, Duras, situé à environ 70 km au sud-est de Bordeaux, entre Bergerac et Marmande. C'est dans cette petite commune de 1300 habitants, née au XIIe siècle, que son père, Henri Donnedieu, est né et dans laquelle il est venu terminer ses jours en laissant en Cochinchine sa femme et ses trois enfants, dont Marguerite, qui avait alors 4 ans et demi. Elle demeurera très influencée par sa jeunesse passée dans cette colonie française et toute son œuvre s'en ressent. Dans sa biographie consacrée à Marguerite Duras, sortie en août 1998, Laure Adler donne la parole à Dionis Mascolo, résistant, militant politique de gauche et essayiste français qui fut l'un des maris de Marguerite Duras de 1947 à 1956 et avec qui elle aura un fils unique, Jean Mascolo, surnommé Outa, qui signifie maison, chalet de montagne ou pièce principale en Savoie et en Suisse, ou peut-être est-ce en référence au verbe outer, au passé simple qui signifie dénoncer devant tout le monde. Faut-il y lire une volonté de revendication au grand jour ? Qu'importe, Jean deviendra photographe de plateau, réalisateur et éditeur. Son père, Dionis Mascolo, créa avec Marguerite Duras et Robert Antelme le groupe de la rue Saint-Benoît au cours de la période de la Résistance. Ce dernier affirme qu'elle avait pris ce pseudonyme car elle n'était pas fière de son frère et qu'elle voulait fuir son identité non littéraire. En effet, son frère aîné est à ses yeux ce frère drogué qui va hanter toute l'œuvre de Marguerite et apparaître comme son envers, son double vénéneux, pour reprendre les termes utilisés par Laure Adler lors d'un entretien accordé aux éditions Gallimard à cette même époque. C'est donc face à l'absence de ce père que Marguerite Duras devra se construire. Sa mère, seule avec trois enfants, fait face à des difficultés financières que Marguerite évoque indirectement dans son roman « Un barrage contre le Pacifique » sorti en 1950 aux éditions Gallimard. Marguerite sera placée en pension à Saïgon. En 1932, elle rentre en France et poursuit des études de mathématiques, de droit et de sciences politiques. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, elle épouse Robert Antelme, dont elle divorcera en 1947 pour épouser Dionis Mascolo, dont je viens de vous parler précédemment, et avec qui elle partagera sa vie jusqu'en 1956. La grande figure masculine restera surtout celle de Yann Lemay, surnommé Yann Andrea Scheiner par Marguerite Duras elle-même, de 38 ans son cadet, et avec qui elle partagera son existence de 1980 à 1996. Andrea était le prénom de la mère de Yann Lemay et Stein est à mettre en regard avec le roman de Marguerite Duras, Le ravissement de Lolwe Stein. Rebaptiser sans cesse, cette célébration du nom, cette soif de renommer la réalité tangible lui a permis de rompre avec ses origines, sa famille, que ce soit avec la folie de sa mère ou avec la violence de ses frères. Elle veut extirper d'elle-même ce passé ombrageux qui pourtant ne cesse de refaire surface dans son œuvre comme une mémoire fragmentée qui n'en finirait pas de ressurgir. Marguerite Duras considère le livre comme une soustraction du corps, pour reprendre ces termes, comme un dépeuplement du corps. Il s'agit donc bien de libération possible d'un passé engloutissant qu'elle tente à travers ses œuvres. Marguerite a aimé ces hommes comme autant de fantômes réitérés de cette figure masculine qui lui a tant manqué dans l'enfance, le père. Alors, elle s'en est fabriquée des pères, jusqu'à devenir elle-même son propre père. Long travail de la psychanalyse et de l'introspection qui nous permet un jour de lâcher les voiles et de partir à l'aventure, enfin seule et libérée sur la haute mer. Mais qu'importe, ce qui retient notre attention aujourd'hui, c'est la femme de théâtre et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi de vous parler de Savannah Bay, titre aux 4 A qui nous conduit dans les méandres de la pensée et des souvenirs de Marguerite, puisqu'il s'agit bien de se souvenir dans ce texte. Nous y reviendrons. En 1984, Marguerite Duras reçoit le prix Goncourt pour son roman « L'amant », roman en partie biographique qui met à l'honneur sa première grande histoire d'amour vécue avec un riche chinois de Cholen ou Cholon, quartier de Ho Chi Minh Ville, anciennement Saigon. Issue d'une grande caste et de 12 ans son aînée alors qu'elle vivait à Saigon et qu'elle n'était âgée que d'une 15aine d'années. Succès mondial que ce roman qui sera adapté au cinéma par Jean-Jacques Haneau en 1992. En 1993 paraît l'un des derniers ouvrages intitulé « Écrire » et qui contient ce texte étrange qui interroge la mort d'une mouche. J'aimerais raconter l'histoire que j'ai racontée une première fois à Michel Porte qui avait fait un film sur moi. À ce moment-là de l'histoire, je me trouvais dans ce qu'on appelait la dépense, dans la petite maison avec laquelle communique la grande maison. J'étais seule, j'attendais Michel Porte dans cette dépense-là. Je reste souvent ainsi seule dans des endroits calmes et vides, longtemps. Et c'est dans ce silence-là, ce jour-là, que tout à coup j'ai vu et entendu à ras du mur, très près de moi, les dernières minutes de la vie d'une mouche ordinaire. Je me suis assise par terre pour ne pas l'effrayer. Je n'ai plus bougé. J'étais seule avec elle dans toute l'étendue de la maison. Je n'avais jamais pensé aux mouches jusque-là. Sauf sans doute pour les maudire, comme vous. J'ai été élevée comme vous, dans l'horreur de cette calamité du monde entier, celle qui amenait la peste et le choléra. Je me suis approchée pour la regarder mourir. Elle voulait échapper au mur où elle risquait d'être prisonnière du sable et du ciment qui se déposait sur ce mur avec l'humidité du parc. J'ai regardé comment une mouche, ça mourait. Ça a été long. Elle se débattait contre la mort. Ça a peut-être duré entre 10 et 15 minutes et puis ça s'est arrêté. La vie avait dû s'arrêter. Je suis restée pour voir encore. La mouche est restée contre le mur comme je l'avais vue, comme scellée à lui. Je me trompais. Elle était encore vivante. Je suis encore restée là à la regarder dans l'espoir qu'elle allait recommencer à espérer, à vivre. Ma présence faisait cette mort plus atroce encore. Je le savais et je suis restée pour voir. Voir comment cette mort progressivement envahirait la mouche. Et aussi essayer de voir d'où surgissait cette mort. Du dehors ou de l'épaisseur du mur ou du sol. De quelle nuit elle venait. De la terre ou du ciel. Des forêts proches ou d'un néant encore innommable. Très proche peut-être, de moi peut-être, qui essayait de retrouver les trajets de la mouche en train de passer dans l'éternité. Je ne sais plus la fin. Sans doute la mouche, à bout de force, est-elle tombée, que les pattes se sont décollées du mur et qu'elle est tombée du mur. Je ne sais plus rien, sauf que je suis partie de là et je me suis dit « Tu es en train de devenir folle. » Et je suis partie de là. Quand Michel Porte est arrivé, je lui ai montré l'endroit et je lui ai dit qu'une mouche était morte là à 3h20. Michel Porte a ri beaucoup. Elle a eu un fou rire. Elle avait raison. Je lui ai souri pour que cette histoire finisse, mais non, elle a encore ri. Et moi, quand je vous la raconte comme ça, dans la vérité, dans ma vérité, c'est ce que je viens de vous dire, ce qui a été vécu entre la mouche et moi et qui ne se prête pas encore à rire. La mort d'une mouche, c'est la mort. C'est la mort en marche vers une certaine fin du monde qui étend le champ du sommeil dernier. On voit mourir un chien, on voit mourir un cheval et on dit quelque chose, par exemple, « Pauvre bête !» Mais qu'une mouche meure, on ne dit rien, on ne consigne pas rien. Maintenant, c'est écrit. C'est ce genre de dérapage-là, peut-être, je n'aime pas ce mot, très sombre, que l'on risque d'encourir. Ce n'est pas grave. Mais c'est un événement à lui seul, total, d'un sens énorme, d'un sens inaccessible et d'une étendue sans limite. J'ai pensé aux Juifs, j'ai haï l'Allemagne comme au premier jour de la guerre, de tout mon corps, de toute ma force. De même que pendant la guerre, à chaque Allemand dans la rue, je pensais à son meurtre par moi opéré, par moi inventé, perfectionné, à ce bonheur colossal d'un corps allemand, par moi tué.
Voici venu le temps de la pièce choisie sur Prune 92 FM et en DAB+ sur Saint-Nazaire, en compagnie d'Anna pour l'émission Tous en scène.
Savannah Bay est une pièce qui a été écrite pour être jouée par Madeleine Renaud en 1983. On y découvre deux femmes, Madeleine et la jeune femme, qui parlent du suicide d'une jeune femme à Savannah Bay alors qu'elle vient d'accoucher. Dans cette petite ville du Siam, ancien nom de la Thaïlande, Savannah Bay, une jeune femme de 16 ans, est-ce Marguerite Duras elle-même, et un jeune homme inconnu, est-ce l'amant chinois dont parle Marguerite Duras dans ce roman éponyme, ont vécu une passion amoureuse intense qui s'est achevée par la naissance d'un enfant et la mort de la jeune femme. Dans la pièce, Madeleine, mère de cette jeune femme morte, est une célèbre comédienne âgée, sorte de double de la propre mère de Marguerite Duras, qui tente de se souvenir de ces événements face au questionnement assidu d'une jeune femme comme sortie d'outre-tombe qui viendrait lui demander de rendre des comptes sur cette période. C'est là que la mémoire devient défaillante. Alzheimer est là, tapis dans l'ombre, et ce n'est que réminiscences incertaines et affabulations qui ressurgissent dans ce dialogue chargé de silence qui s'établit entre les deux femmes. Comment aller à la conquête de la vérité en faisant se relier la parole de la vieillesse, qui est celle du souvenir porté par Madeleine Renaud, et celle de la jeunesse qui est dans le questionnement incessant car elle veut des réponses à l'inconnu qui s'offre à elle, interprétée par Bulogier. Notre jeunesse actuelle a épuisé le questionnement à l'extrême et elle semble maintenant prendre un nouveau chemin dans lequel elle voudrait faire fi de la parole ancestrale et trouver elle-même sa voie de salut.
La salle est pleine. On s'empêche de mourir par politesse. La salle attend. On lui doit le spectacle. La salle est noire. On lui raconte qui est mort, qui est resté en vie, qui criait. On lui dit comme la mer était bleue, quelle chaleur c'était, comme la pierre est blanche, comme la douleur est longue, comme elle change. Comme elle devient. Le second voyage, l'autre rive, le deuxième amour. C'est la fin d'un jour, juste avant la nuit, quand la lumière s'allonge, illuminante, avant de s'éteindre. C'est le crépuscule. On ne distingue plus l'étendue de la mer. L'étendue de la mer se confond avec l'étendue rouge du ciel. C'est Savannah Bay. C'est la terre lointaine. C'est la Seine, le continent. C'est l'immensité. C'est le sable. C'est l'histoire. C'est partout. Partout. C'est Savannah Bay.
Vous aurez reconnu la voix de Marguerite Duras à qui nous ne pouvions pas ne pas donner la parole. C'est pourquoi au début de notre lecture de sa pièce, Savannah Bay, nous avons choisi de vous faire écouter la fin du film de Michel Porte, Savannah Bay, c'est toi. Dans ce film, Michel Porte rend compte du travail de mise en scène de Marguerite Duras au cours des répétitions de sa pièce Savannah Bay avec Madeleine Renaud et Bulogier au Théâtre du Rond-Point à Paris en septembre 1983. Précisons à nos auditeurs et auditrices que la compagnie Renaud Barreau inaugure en mars 1981 la nouvelle rotonde vidée et réaménagée par les architectes Biraud et Fernier qui devient alors le Théâtre du Rond-Point avec un spectacle de Jean-Louis Barreau, le fidèle compagnon de Madeleine Renaud, spectacle intitulé « L'amour de l'amour ». Ce théâtre, de 1980 à 1991, va devenir le lieu de création et de présentation d'œuvres modernes, qu'elles soient de Marguerite Duras, Nathalie Sarraute, Samuel Beckett, auteurs dont nous vous avons déjà parlé dans Tous en scène. Cela en dit long sur le foisonnement intellectuel qui se tenait en ce lieu et qui perdure de nos jours au 2 bis avenue Franklin Delano Roosevelt dans le 8e arrondissement à proximité des Champs-Élysées et surtout du Grand Palais. Tu ne sais plus qui tu es, qui tu as été. Tu sais que tu as joué. Tu ne sais plus ce que tu as joué, ce que tu joues. Tu joues. Tu sais que tu dois jouer. Tu ne sais plus quoi, tu joues. Ni quels sont tes rôles, ni quels sont tes enfants vivants ou morts, ni quels sont les lieux, les scènes, les capitales, les continents où tu as crié la passion des amants. Sauf que la salle a payé et qu'on lui doit le spectacle. Tu es la comédienne de théâtre, la splendeur de l'âge du monde, son accomplissement, l'immensité de sa dernière délivrance. Tu as tout oublié, sauf Savannah. Savannah Bay. Savannah Bay, c'est toi. Marguerite Duras. On peut lire ces quelques mots au tout début de la publication de cette pièce Savannah Bay aux éditions de Minuit. La jeune femme, elle a entre 20 et 30 ans. Elle aime Madeleine de la même façon qu'elle aimerait son enfant, rigoureusement parlant. Madeleine, elle, laisserait faire cet amour pour elle de la même façon qu'un enfant. Madeleine, je la vois de préférence habillée de noir, sauf la robe essayée que je vois blanche, fleurie en jaune clair. Le rôle du personnage nommé Madeleine dans Savannah Bay ne devra être tenu que par une comédienne qui aurait atteint la splendeur de l'âge. La pièce, Savannah Bay, a été conçue et écrite en raison de cette splendeur. Aucune comédienne jeune ne peut jouer le rôle de Madeleine dans Savannah Bay.
Scène 1. Qu'est-ce que c'est ?
Un disque pour vous. Vous reconnaissez cette chanson ?
C'est-à-dire ? Un peu ? Oui. Qui chante ?
Une chanteuse qui est morte.
Ah ?
Il y a une quinzaine d'années.
On dirait qu'elle est là.
Elle est là. À la Magra, vous avez dû chanter ça pendant plusieurs étés.
Ah, peut-être. Peut-être.
Oui.
Elle a beaucoup de talent.
Oui. Le disque était dans la maison depuis toujours. Et puis, il a été cassé.
Celle-là, qui chante, je l'ai connue.
Le nom ne vous dirait rien.
Non.
Vous reconnaissez la voix ?
Pas la voix. Quelque chose dans la voix. La force, peut-être. C'est une voix qui a beaucoup de force.
C'est votre force. C'est votre voix.
Elle s'est tuée, cette femme-là ?
Oui. Vous le saviez ?
Non, je l'ai dit au hasard. C'est peut-être ce qu'elle chante qui porte à le croire. Pendant des mois, il m'est arrivé à moi aussi de mourir chaque soir au théâtre. Des mois durant, chaque soir. C'était à l'époque d'une très grande douleur.
Je vais chanter cette chanson et vous, vous répéterez les paroles. Vous ne voulez pas ?
Si, si, je veux bien. Qui êtes-vous ? Vous êtes une petite fille ? Je ne me souviens jamais exactement.
Regardez-moi, je viens tous les jours vous voir.
Ah oui, oui. On joue aux cartes, on raconte des histoires.
C'est ça, on prend le thé, des tas de choses.
Ah oui. Un jour, c'est vous qui me faites compter. C'est ça, des chiffres.
Oui.
Des chiffres considérables.
C'est ça.
Je vous reconnais. Vous êtes la fille de cet enfant morte, de ma fille morte. Vous êtes la fille de Savannah. Oui. Oui. C'est ça. Je voudrais qu'on me laisse.
Regardez-moi. C'est fou ce que je peux t'aimer. Ce que je peux t'aimer des fois. Des fois, je voudrais crier.
C'est fou ce que je peux t'aimer. Ce que je peux t'aimer des fois. Des fois, je voudrais crier.
Oui. Car je n'ai jamais aimé. Jamais aimé comme ça. Ça, je peux te le jurer.
Car je n'ai jamais aimé. Jamais aimé comme ça. Ça, je peux le jurer.
C'est ça. Si jamais tu partais et me quittais, je crois que j'en mourrais. Que j'en mourrais d'amour. Mon amour. Mon amour.
Non.
Si jamais tu partais, partais et me quittais.
Si jamais tu partais, partais et me quittais.
Oui. Je crois que j'en mourrais. Que j'en mourrais d'amour. Mon amour. Mon amour.
Non.
Je crois que j'en mourrais.
Je crois que j'en mourrais.
Que j'en mourrais d'amour, mon amour. Mon amour.
Que j'en mourrais d'amour.
C'est fou ce que je peux t'aimer. La 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 la. Mon amour, mon amour. C'est vous que j'aime le plus au monde. Plus que tout. Plus que tout ce que j'ai vu. Plus que tout ce que j'ai lu. Plus que tout ce que j'ai.
Moi ?
Oui.
Pourquoi me dire ça aujourd'hui ?
Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui ?
J'avais décidé de demander qu'on ne vienne plus me voir aussi souvent. Enfin, un peu moins. Je voudrais être seule ici. Seule. Que personne ne vienne plus.
Oui.
Mais toi, qu'est-ce que tu deviendras sans moi ? Mon enfant, ma beauté. Ça ne voulait pas vivre, ça ne voulait pas, non, ça ne voulait rien, rien.
C'est fou ce que je peux t'aimer. Ce que je peux t'aimer des fois je voudrais crier.
Oui.
Je voulais vous dire, j'ai vu une photographie de ces années-là de la chanson. Ils sont tous devant la porte des bateaux. Il y a une très jeune fille.
Il y a toujours des jeunes filles sur les photographies des vacances.
À sa droite, il y a un homme. Il est grand, très jeune aussi. Il lui tient la main. Et puis plus tard, il y a la photographie d'une femme. Elle a les mains sur le visage. Elle pleure. C'est une scène de théâtre.
C'est moi ? Au théâtre, c'est moi.
Quelquefois, je ne reconnais plus votre voix.
Ça arrive, je l'entends.
Vous ne comprenez plus que très peu de ce qu'on vous dit.
Oui, très peu de ce qu'on me dit. Quelquefois, rien.
Quelquefois, tout.
Quelquefois, tout.
Un certain jour, un certain soir, je vous laisserai pour toujours. Je fermerai la porte, là, et ce sera fini. Je vous embrasserai les mains. Je fermerai la porte, ce sera fini.
Quelqu'un viendra chaque soir pour voir et pour allumer les lampes.
Oui. Et un jour, il n'y aura plus de lumière. Ce ne sera plus la peine qu'il y ait de la lumière.
Oui. C'est ça. On écoutera. La respiration aura cessé.
Oui.
Et toi, où seras-tu ?
Partie, différente. Pour toujours différente. Pour toujours sans vous.
Sans moi ? Sans qui ?
Vous, sans vous.
La mort arrivera du dehors de moi ?
De très loin. Vous ne saurez pas quand.
Non, je ne saurai pas.
Elle est partie depuis le commencement du monde en prévision de vous seule.
Oui, inscrite dès la naissance. Quel honneur. Dès avant la naissance.
Oui.
Pour arriver là. Comment sais-tu ces choses-là ?
Je vous vois. Vous pensez tout le temps à une seule chose.
Oui.
À quoi ? Vous pouvez me le dire une fois ?
Eh bien, vas-y voir toi-même pour savoir ce à quoi on pense.
Vous pensez à Savannah ?
Oui, je crois que c'est ça.
Savannah arrive à la vitesse de la lumière. Elle disparaît à la vitesse de la lumière. Les mots n'ont plus de temps.
Non. Le temps.
Et à n'importe quel moment, impossible de le prévoir.
Impossible, autant prévoir le bonheur.
Regardez, c'est le costume que vous portiez, vous savez, dans ce film, Le Voyage au Siam.
Ah oui, oui. Ça vous va très bien. Très bien.
Regardez-vous.
Je trouve que je suis belle.
Je trouve aussi que vous êtes belle.
Le rouge me va très bien, toujours. Et puis c'est cette robe aussi.
D'où elle vient ?
Des armoires là-bas. Je l'ai sortie ce matin.
Vous avez joué beaucoup de pièces avec ça ?
Ah oui, de très belles pièces. Des tragédies, des comédies, tout.
Ah oui, c'est vrai. Dites-moi, vous étiez comédienne ?
Oui. Oui, j'étais une comédienne. C'était ce que je faisais. Comédienne.
Comédienne.
Comédienne pour le théâtre, j'étais.
Autrement, rien.
Rien.
Dites-moi encore cette histoire.
Tous les jours, tu veux cette histoire ?
Oui.
À force, tous les jours, je me trompe. Dans les dates, les gens, les endroits.
Oui.
Qu'est-ce que tu veux ?
Oui.
Dans la seconde scène, les deux femmes racontent l'histoire de cette jeune fille qui meurt d'aimer. Il y est question de sa disparition, de sa mort et de la naissance de son enfant. Dans la troisième scène, dont on vous donne à entendre la fin, on revient au réel. Et quel réel ? Celui des dernières larmes face à la béance, l'appel du vide, celui de la mort.
Pourquoi ce désespoir, madame, tout à coup ?
Parce que je ne sais plus, monsieur, sur quoi je pleure. À mon avis, monsieur, elle se serait donné la mort une nuit ici même, à Savannah Bay, morte d'aimer. Vous auriez été son amant, elle aurait essayé de vous entraîner dans la mort. Vous ne seriez pas parvenu à mourir. Elle aurait eu 17 ans. Une enfant serait née de cet amour, de cette mort dans la mer chaude de Savannah Bay. Mais qui sait ? C'est ce que je crois, monsieur, avoir su. Il y aurait de cela très longtemps, monsieur, on le dit, un nombre considérable d'années. Alors, monsieur, à force, moi, je me trompe dans les dates, les gens, les endroits. Partout, elle est morte, partout, elle est née, partout, elle est morte à Savannah Bay, née là, à Savannah.
Il vous a dit que ce n'était pas lui qu'elle avait aimé. Ce n'est pas moi, madame, qui ai vécu cet amour, excusez-moi.
C'est égal, monsieur, c'est égal. Je m'en allais. Je quittais le Siam.
Vous recommenciez à chercher ?
Oui, partout. Dans les villes du monde qui sont au bord de la mer.
Shanghai, Calcutta, Rangoon. Ou encore ailleurs. Bombay, Paris-Plage, Bangkok, Jakarta, Singapour, Lahore, Biarritz, Sydney.
Saigon, Dublin, Osaka, Colombo, Rio. Et qui sait ? Qui sait ?
Et qui sait ?
À l'enfant qui est né, on n'a pas donné de nom, je vous l'ai dit.
À l'enfant qui est né, on n'a pas donné de nom, je vous l'ai dit ?
Elle s'est nommée elle-même, plus tard.
C'est ça, elle s'est donné le nom de Savannah. Celui du feu.
Celui de la mer.
Enfin, un peu de pluralité avec ces voix nouvelles que nous réserve l'interview. Vous êtes bien sur Prune 92 FM et en DAB+ sur Saint-Nazaire en compagnie d'Anna pour l'émission Tous en scène.
Aujourd'hui, dans le cadre de nos interviews du mois, nous recevons Marine Breton, historienne de formation et professeure de lettres, histoire, géographie au lycée professionnel Louis-Jacques Goussier à Rezé. Bonjour Marine.
Bonjour Anna.
Louis-Jacques Goussier est né le 7 mars 1722 et mort le 23 octobre 1799 à Paris. C'est un ingénieur et dessinateur français qui a participé activement à l'encyclopédie aux côtés des philosophes Denis Diderot et Jean Leron d'Alembert, à tel point qu'on le présente parfois comme étant le troisième auteur de l'encyclopédie. En effet, il s'est énormément impliqué dans la réalisation de nombreuses planches synthétiques et pédagogiques qui illustrent ce fameux ouvrage de l'époque des Lumières. Comme lui, Marine, vous avez choisi la voie de la transmission, il y a maintenant une vingtaine d'années. Vos élèves, qui font le choix de la voie professionnelle, recherchent avant tout une formation à laquelle ils peuvent donner rapidement du sens en apprenant, dès la fin de la classe de troisième, un métier valorisant. Il vous incombe donc la rude tâche de les accompagner dans ce cheminement, tout en poursuivant une éducation intellectuelle qui les armera solidement tout au long de leur vie, et en leur inculquant les rudiments d'une culture générale qu'ils sauront réexploiter à bon escient au cours de leur parcours si varié. Vous devez pour cela aborder d'une manière différente les programmes scolaires pour rendre votre enseignement plus concret, afin qu'il soit davantage en relation avec l'entreprise et ses divers métiers. Je crois savoir que cette année, vos élèves préparent le CAP, métier de la mode et du vêtement, et le bac pro, accompagnement, soins et services à la personne. Alors,
Marine, même si l'on sait qu'il n'existe pas de recette miracle dans l'enseignement, puisque chaque groupe classe demande une écoute et un accompagnement particulier, comment procédez-vous pour rendre un cours plus attrayant pour vos élèves et comment faites-vous pour capter leur attention au quotidien ?
Eh bien, j'essaye de monter des projets d'éducation artistique et culturelle qui donnent du sens à l'enseignement du français dans les lycées professionnels. Je peux peut-être donner un exemple pour
illustrer.
Il y a 2 ans, nous avons monté un projet à partir de l'exposition Rock au musée du Château. Avec des élèves de chaudronnerie et de mode, dans lequel nous avons essayé d'intégrer la dimension professionnelle de leur formation à une dimension culturelle autour de cette exposition. En réalisant, l'objectif était de réaliser un clip vidéo à partir d'un groupe de rock nantais qui nous offrait un de ses morceaux. Les élèves ont choisi le groupe Ultra Vomit. C'est un groupe de métal qui avait créé une chanson qui s'appelle Kamtar. Et donc, les élèves ont travaillé le français à travers l'écriture d'un scénario, à travers la réalisation, l'écriture du scénario et la réalisation de celui-ci en respectant différentes contraintes. Ils ont adapté des textes, essayé d'adapter des images de clips en les retranscrivant dans leur écriture du scénario. Et puis, on a fait appel à un vidéaste professionnel. Hélène Bourdier-Roland qui nous a accompagnés pour la réalisation et nous avons ensuite diffusé ce projet dans l'amphithéâtre et nous avons invité les artistes du groupe qui sont venus avec les élèves découvrir ce travail et donc qui permettait une mise en valeur de ce travail. Ça permet de lier l'enseignement professionnel à l'enseignement du français, de la littérature, de l'histoire, de la géographie, selon les projets. Et donc, ça donne du sens, à mon avis, à la fois à l'enseignement professionnel et à notre enseignement de littérature et d'histoire. Voilà.
Et donc, vous qui avez compris qu'il est nécessaire donc, dans l'enseignement de mettre les élèves au contact de la réalité et de les ouvrir le plus souvent sur l'extérieur, comme vous venez de nous le dire avec ce projet qui était donc en lien avec cette exposition qui avait lieu au château de Nantes, eh bien, en organisant régulièrement ce travail, vous travaillez également avec l'Europe dans le cadre des fameux projets Erasmus+. Alors, je rappelle juste à nos auditrices et auditeurs que les projets Erasmus visent à donner une dimension de terrain à la notion de citoyenneté européenne et surtout à développer l'ouverture d'esprit et la tolérance à l'égard de la différence sous toutes ses formes. Comment faites-vous dans le contexte actuel lié à la crise sanitaire que nous traversons pour poursuivre cette mission de passeur de culture ?
Alors, c'est sûr que tout est plus compliqué en ce moment, mais on croit vraiment qu'il faut poursuivre tous ces projets. Nous sommes soutenus par l'Union européenne qui vient de nous permettre d'aménager nos projets. Le projet Erasmus+, dans notre lycée, consiste à envoyer des élèves en période de formation en milieu professionnel, on dit en stage aussi, dans des entreprises lituaniennes pendant 4 semaines, accompagnées par des enseignants. Et ce projet a une dimension culturelle également, hein, qui permet cette ouverture à l'autre et à la culture de l'autre, et qui permet aussi de comprendre la sienne par mise en face à face. Et donc, nous essayons de recruter à nouveau des élèves pour pouvoir partir. Ça devait être en novembre-décembre, ça pourra peut-être se faire en avril-mai, nous verrons, pour pouvoir continuer ce projet qui évidemment permet ce que nous essayons de faire à travers tous les projets que nous menons au lycée, cette ouverture artistique qui paraît fondamentale, enfin, et culturelle, pas seulement artistique, hein, la culture professionnelle fait évidemment partie de cette culture, qui permet de fonder une humanité et pas seulement un domaine professionnel. Et d'intégrer ce domaine professionnel à la personnalité du jeune.
Les élèves qui partent avec vous dans le cadre de ce projet sont en quelle année par rapport à leur formation ?
Alors, nous emmenons des élèves de deuxième année de CAP coiffure, donc c'est des élèves qui ont 16 ans, et puis des élèves de première ou de terminale selon les formations. Donc, ce sont des jeunes qui, parfois, ne sont jamais sortis de France, qui viennent de tous les milieux sociaux, Sachant qu'en lycée professionnel, nous avons parfois des élèves qui viennent de milieux moins favorisés. Donc, c'est une vraie chance, c'est une vraie opportunité d'aller rencontrer une autre culture, un autre pays, un autre mode de fonctionnement. Et on voit bien que ça leur donne, les élèves qui sont déjà partis et qui reviennent, ça leur a donné toujours une grande autonomie, une grande force pour ensuite avoir envie de déclencher d'autres projets, que ce soit de poursuivre des études en France ou ailleurs, en Europe, ou même au-delà de l'Europe. Hein, on en a qui partent au Canada pour suivre leurs études.
C'est un vrai tremplin.
C'est un vrai tremplin, c'est une véritable chance, oui. Mmh. Oui, oui. Et pour nous, enseignants, c'est également une vraie ouverture. Tous ces projets que nous menons, que ce soit Erasmus+, ou tous les projets d'éducation artistique, ça nous motive aussi, ça donne du sens aussi à nos enseignements, et on se nourrit de ces projets-là pour en trouver d'autres chaque année. Et c'est une vraie richesse, oui.
Et en plus, avec la rencontre que vous êtes amenée à faire avec d'autres enseignants qui peut-être également viennent ensuite en France avec leurs propres élèves, c'est un...
Alors, en fait, c'est pas un véritable échange, mais il y a possibilité d'accueillir également, effectivement, des groupes. L'année dernière, on a accueilli 4 enseignantes lituaniennes qui sont venues observer pendant 15 jours la façon qu'on avait de travailler notre système éducatif. Et donc, avec qui on a échangé sur toutes nos pratiques, justement, et qui ont été très, très impressionnés par tous ces projets qui mêlent toutes les disciplines, l'interdisciplinarité, et puis qui ont pu rentrer chez elles en apportant ça et en nous amenant à nous aussi un regard sur notre travail qui était très, très intéressant.
Bien. Je sais que vous êtes également très impliquée au sein de l'association Comet à Nantes en tant que membre du comité de pilotage. Et aussi, vous êtes responsable de l'organisation des rencontres théâtrales que propose l'association aux jeunes élèves de notre département. Alors tout d'abord, qu'est-ce que signifie faire partie d'un comité de pilotage et en quoi est-ce une démarche, somme toute, assez novatrice ?
Eh bien, faire partie du groupe de pilotage, ça veut dire qu'on est 5 personnes à organiser toutes les activités de Comet. Il n'y a plus de présidence à Comet. Le système de l'association a été un petit peu modifié. Nous avons obtenu l'accord de la préfecture pour cela. Ça commence à se développer un petit peu. La responsabilité d'une présidence, c'est très très lourd. C'est beaucoup de travail. Et à réaliser tout seul, ça nous paraissait devenir trop important. C'est une association qui a quand même beaucoup d'activités. Et donc, nous avons décidé, il y a 3 ans, je crois, de monter ce système qui est un système de décision, de collégialité. Et donc nous retrouvons, il y a un conseil d'administration dans lequel sont 5 personnes constituent ce comité de pilotage. Et donc nous nous retrouvons régulièrement pour prendre les grandes décisions et suivre les orientations du conseil d'administration pour mener à bien tous les projets de Comet, que ce soit les rencontres, mais aussi la formation qu'on propose aux enseignants et aux comédiens, et puis également le fait de mettre en lien les compagnies théâtrales et puis les enseignants pour que des projets puissent naître à nouveau.
Je trouvais que c'était effectivement très, très novateur l'idée de pouvoir être à la présidence d'une association avec, dans votre cas, 5 personnes qui sont amenées à prendre des décisions ensemble. Ça fait un peu penser au modèle de l'Antiquité où 2 consuls se partageaient le pouvoir. Mmh. Et la question un peu qui me vient à l'esprit, mais c'est une question plus large, d'espérer peut-être que dans les gouvernances qui viendront dans les années à venir, on puisse mettre à la tête des États justement des pilotages, des comités de pilotage tels que ce que vous avez mis en place en faisant modifier justement les statuts d'une association, puisque c'est de ça dont vous venez de parler un peu.
Bien oui, ça permet de confronter ces certitudes ou ces incertitudes, et c'est très riche. Et ça a un côté rassurant et galvanisant en même temps, c'est très intéressant.
Bien. Alors, revenons au théâtre. Qu'est-ce qui vous a, vous, conduit à vous impliquer de la sorte dans le théâtre-éducation ?
Eh bien, les premières rencontres qu'avait organisées Comet il y a 33 ou 34 ans, je ne sais plus, j'y étais déjà, mais en tant que collégienne. Voilà. Donc, j'avais pu vivre de l'intérieur en tant que jeune, ce moment formidable des rencontres à Guérande, surtout des rencontres hébergées. C'est un moment fondateur pour moi, je pense, dans tout ce que j'ai pu faire ensuite, toutes les envies que j'ai pu avoir d'aller découvrir, pas seulement du théâtre, mais aussi de la danse et de pouvoir jouer sur scène et partager avec les autres ces émotions.
Si vous voulez rappeler à nos auditeurs et auditrices ce que c'est que ces rencontres théâtrales hébergées.
Oui, alors ce sont des rencontres qui ont lieu sur 3 ou 4 jours. Enfin, c'était 4 jours avant, maintenant c'est 3 jours à Guérande. Dans lesquels les jeunes se rencontrent. Ce sont des jeunes d'établissement scolaire du département qui pratiquent tous le théâtre avec un comédien ou une comédienne toute l'année en partenariat avec un enseignant et qui viennent en fin d'année scolaire présenter leur travail et rencontrer les autres autour de ces présentations. Il y a des ateliers qui ont lieu aussi avec des comédiens pour pouvoir travailler en commun avec d'autres groupes, se rencontrer. Il y a eu tout un travail d'école du spectateur également. Et nous proposons aussi un spectacle professionnel aux jeunes pour qu'ils puissent se projeter et puis pouvoir discuter ensemble ensuite de ce spectacle durant ces rencontres. Et donc, c'est un moment de rencontre humaine et autour du théâtre qui ont lieu depuis 33, 34 ans. L'année dernière, malheureusement, avec le confinement, nous avons dû les annuler. Mais nous sommes en train de réfléchir à de nouvelles formes. Là, cette année, nous avons envie de les maintenir, ces rencontres, mais peut-être que les formes vont devoir évoluer. Nous travaillons là-dessus en ce moment.
Donc, on vous a donné il y a 33, 34 ans, et maintenant, vous, à votre tour, vous redonnez finalement ce qui a pu être semé cette époque.
Exactement, et le retour qu'on a tous les ans des jeunes sur ces rencontres, correspondent toujours à la même chose que ce que moi j'ai vécu il y a quelques années.
Voilà. Fabuleux. Alors, les nouveaux programmes scolaires ont pour but de travailler davantage la pratique de l'oral avec les élèves, comme en témoigne l'épreuve du grand oral qui vient d'être instaurée en classe de terminale, et aussi les différentes épreuves orales, finalement, quelles que soient les sections choisies par les élèves. Il est donc évident que l'art de l'éloquence est au cœur des fondamentaux enseignés à l'école. Alors, et je m'adresse de nouveau à la professeure que vous êtes, comment peut-on raisonnablement préparer des élèves à cette maîtrise de l'oral alors qu'on leur impose quotidiennement de porter un masque qui leur couvre littéralement la moitié du visage ?
Eh bien, c'est plus important que jamais, justement. Nous devons poursuivre ce travail de l'oral. Le masque, il faut espérer que nous puissions l'enlever le plus rapidement possible. Et les mots prennent encore plus de force, sans doute. Dans ce moment où, effectivement, il y a forcément un repli sur soi et quelque chose qui se referme. Au contraire, il faut absolument poursuivre ce travail et donner plus de force, plus de possibilités et de force d'expression aux jeunes en travaillant cet oral de différentes façons, par des projets théâtraux, mais également, nous, en lycée professionnel, on a une présentation d'un chef-d'œuvre, c'est-à-dire que les élèves doivent travailler sur un projet et effectivement ont une épreuve orale dans laquelle ils doivent présenter leur travail. Et donc, nous devons absolument poursuivre ce travail.
Donc, motiver leur choix, pourquoi ils ont choisi telle thématique, exactement. Dans quelle perspective ils ont travaillé.
Exactement. Et ces projets mêlent toujours un enseignement professionnel à un enseignement général. Plusieurs enseignants interviennent et donc cette dimension culturelle de leur projet est très importante et doit pouvoir s'argumenter à l'oral.
Et au quotidien, le fait d'avoir en face de soi une vingtaine d'élèves, voire plus, masqués, parfois on peut s'interroger et se demander d'où vient l'intervention qui est faite dans la classe. Comment au quotidien ceci est géré ? Et géré, c'est le mot géré impropre ici, mais comment au quotidien vous, en tout cas, vous vivez ce temps.
Alors, c'est très difficile, pour dire toute la vérité. C'est très frustrant, c'est très fatigant. C'est difficile même techniquement, parce qu'on ne comprend pas bien ce que peuvent dire les élèves. Moi, j'ai un petit problème d'audition, donc j'ai du mal à ne pas lire sur les lèvres. Mais c'est vraiment, quand même, vraiment bien mieux que de ne pas être face aux élèves. Et donc, c'est quand même un grand bonheur que de retrouver nos élèves à la rentrée. Et il faut accepter sans doute ce masque pour pouvoir poursuivre cet enseignement face aux élèves directement et éviter de se reconfiner.
Alors, ma dernière question est orientée un peu de manière polémique. Je suis un peu désolée au regard de tout ce que la bonté que vous nous apportez dans vos réponses. Mais bon, si l'on s'en tient à la définition du petit Robert, le mot mascarade, dérivé du mot masque, est, je cite, un divertissement où les participants sont déguisés et masqués. Et au sens figuré, ce mot désigne, je cite toujours, des actions hypocrites et trompeuses. On est alors en droit de s'interroger sur les nouvelles règles du jeu qui sévissent dans l'espace public au quotidien. Qui trompe qui se moque de qui? Et comment, dans cette insoutenable logique de la parole bâillonnée, peut-on continuer à accompagner ces si chers élèves vers la voie de l'émancipation intellectuelle?
Écoutez, je ne donnerai pas de réponse politique. Voilà. Je veux juste dire qu'effectivement, il faut absolument poursuivre ce travail d'émancipation qui permet de rester libre et que la liberté, peut-être le masque nous en enlève un petit peu, ça nous enlève quelque chose, mais quelle solution, je ne sais pas.
Vous le disiez tout à l'heure, il faut continuer à œuvrer et à proposer des projets sans cesse nouveaux, différents, émancipateurs.
Et poursuivre l'ouverture à l'autre, toujours par cette dimension culturelle qui m'importe, moi, fortement, et qui, j'en suis persuadée, apporte aux jeunes également énormément.
Et donc, même à visage à moitié couvert, on continue.
On continue, et toujours avec l'espoir de découvrir davantage le visage et de récupérer ce que peut-être effectivement nous aurons perdu avec ce masque, en lui donnant peut-être un sens un jour, je ne sais pas.
Œuvrons.
Je l'espère.
En ce sens. Il me reste à vous remercier, Marine Breton, en mon nom et en celui des auditeurs et auditrices, pour ce temps passé avec nous et ce voyage au cœur de la transmission scolaire, en ces temps houleux que nous connaissons avec l'obligation de nous adresser masqués à des élèves et étudiants, privés eux aussi momentanément, nous l'espérons tous, d'une partie de leur expression faciale et de leur capacité à parler d'eux. Au revoir Marine et à bientôt sur les ondes de Radio Prune.
Merci Anna, au revoir.
C'est l'heure du clin d'œil de la comtesse Rostropovitch sur Prune 92 FM.
Bonjour à tous et à toutes, chères auditrices et chers auditeurs. En ces temps de second confinement dû à la fameuse Covid-19, on aurait bien envie de rêver, de s'envoler, de laisser dériver notre imaginaire au gré des flots, de le laisser surfer sur la crête de notre vie pour reprendre une esthétique propre à Marguerite Duras. Ainsi, lorsque Marguerite Duras utilise l'expression d'écriture courante pour évoquer sa façon d'écrire, elle fait référence à son écriture qui courait sur la crête des mots pour aller vite, pour ne pas se perdre. Car il s'agit bien ici de sa façon d'écrire qui demeure souvent fragmentée. Comment aller à l'essentiel? Comment donner à voir le strict nécessaire utile? Il n'y a donc qu'un seul chemin, les hauteurs. Et ainsi, de la cime de ces fameuses crêtes que sont les sommets des montagnes, il s'agit donc de donner à entendre aux auditeurs et auditrices, et tout va se faire avec Marguerite Duras, dans ces temps de silence qu'elle ménage. Dans sa pièce « Savannah Bay », les didascalies, ah oui, je précise, les indications scéniques, les didascalies donc de la fin de la scène 2 font l'apologie du silence au théâtre. Je vous lis. Silence. La jeune femme entraîne Madeleine dans une longue déambulation. D'abord, vers le fond du décor, la porte de la mer, sorte d'hôtel ouvert sur la mer, sur de la lumière qui s'assombrit ou, au contraire, devient d'une incandescence froide, selon la violence ou la douleur, la douceur, pardon, de l'évocation. Par les deux femmes, de la jeune fille morte dans la mer chaude de Savannah Bay. Ensuite, cette déambulation se fait vers les parages lointains de la scène à proprement parler, vers les rideaux de théâtre et les colonnes qui encadrent la porte. Ce trajet dure de 4 à 5 minutes. Elle ne parle pas. Après avoir regardé la mer au loin, elle regarde les lieux et puis elle s'arrête et regarde la salle, les gens de la salle. Musique piano de la chanson de Piaf pendant toute la déambulation. Comme vous venez de l'entendre, cette déambulation des deux femmes dure 4 à 5 minutes. 4 à 5 minutes de silence sans parole au théâtre, c'est long, c'est très long, c'est très très long. À Prune, au-delà de 30 secondes de silence, c'est la playlist qui se met automatiquement en marche. Et finalement, cela passe très vite lorsque ce silence est habité par les présences de Madeleine Renaud et de Bulogier qui sont là sur scène pour nous donner à voir l'indicible, ce qui se cache sans doute dans le creux entre deux crêtes. Marguerite Duras affirme qu'au théâtre, c'est à partir du manque qu'on donne à voir. Il faut donc accepter la frustration de la parole absente, de cette parole qui se fait attendre dans la béance des silences pour mieux l'apprécier, pour mieux l'appréhender, la reconquérir lorsqu'elle s'offre à nous. Car il s'agit bien de conquête de l'espace scénique dont nous parlons lorsque nous sommes sur les planches et que nous devons asseoir notre présence pour l'offrir aux spectatrices et spectateurs venus s'abreuver à la fontaine de nos mots, ou plutôt de nos mots, M-A-U-X. Dans le film « Savannah Bess et toi » de Michel Porte, dont Anna vous a parlé, Marguerite Duras parle de la présence qu'il faut savoir dégager au théâtre pour régner sur 25 mètres carrés, parfois que constituent certaines scènes de théâtre. Marguerite Duras évoque alors la présence de Madeleine Renaud en ces termes. « La présence de Madeleine est très mystérieuse. » Dès qu'elle sort du rideau, elle marche dans une foule. Et il y a un rapport de force qui s'établit dès qu'elle apparaît. Et je vois chez Madeleine une capacité d'écrasement, d'écartement de la foule pour faire passage à elle. C'est ce que j'appelle la présence, qui est une notion effectivement très mystérieuse, sans quoi on ne peut pas faire du théâtre. Je vous laisse méditer cette notion de présence d'être à la scène, d'être au monde qui nous font tant défaut actuellement. Car comment avoir le sentiment d'être, tout simplement, dans ces temps de frustration, de peur de la mort, d'inquiétude face à demain qui nous envahissent dans cette vague semblable à celle venue de l'imaginaire d'Okuzai qu'il a appelée la grande vague de Kanagawa et qui est une estampe japonaise gravée sur bois d'un format de 25,7 cm sur 37,9 cm. Aurions-nous peur de ce si petit format fantasmagorique? Soyez confiants, les frêles embarcations qui semblent s'engouffrer dans l'immense vague s'en sont sorties. Je vous laisse en compagnie d'Anna pour l'actualité culturelle nantaise qui est bien fragilisée en ces temps de Covid-19.
L'actualité de la scène théâtrale nantaise dans Tous en scène, c'est l'agenda d'Anna.
Annulé, reporté, suspendu, rebelote. Voilà les slogans que l'on peut lire sur les différents sites culturels de Nantes et d'ailleurs, en ces temps de la Covid-19 version seconde période de confinement. Alors, ce mois-ci, vous pourrez voir, ou plutôt revoir, car en cette seconde, je dis seconde et non deuxième, car on ose espérer qu'il n'y en aura pas de troisième, en cette seconde période de confinement, nos théâtres ont bien du mal à continuer à faire entendre leur voix et c'est donc l'occasion de visionner des spectacles que nous avons aimés et que l'on peut retrouver parfois en ligne. C'est ainsi que vous pourrez découvrir l'univers créatif de Sébastien Barrier, artiste associé au Grand T qui devait proposer du lundi 2 au mardi 10 novembre 2020 son spectacle « Ceux qui vont mieux ». Sur le site du Grand T, vous pouvez suivre cet artiste dans une mystérieuse déambulation, grâce à laquelle il nous fait entrer dans son univers actuel de répétition au cœur de la chapelle du Grand T. C'est l'occasion d'entrer dans ce que l'on peut appeler l'envers du décor. Et puisqu'il faut œuvrer pour un avenir ouvert aux autres retrouvés, ce spectacle ira à la rencontre d'autres publics, comme celui du théâtre Le Montfort, 106 rue Brancion, dans le 15e arrondissement à Paris, du 31 mars au 10 avril 2021. Et c'est bien notre vœu à tous le plus cher, en ce temps incertain que de vouloir aller mieux, pour reprendre le titre de la création de Sébastien Barrier, « Ceux qui vont mieux ». Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Tous en scène, c'est terminé pour aujourd'hui. Je tiens à remercier Marine Breton pour ce temps d'interview qu'elle nous a consacré. Je voulais aussi la remercier pour l'interprétation du personnage de la jeune femme dans la lecture de passage de Savannah Bess de Marguerite Duras. Et bien sûr, un très grand merci à Jean-Pierre à la réalisation, sans qui cette émission n'existerait pas.
et également à toute l'équipe de Prune 92 FM. Vous pouvez réécouter l'émission en podcast sur www.prune.net. On se retrouve samedi 12 décembre 2020 de 12h à 13h pour une nouvelle émission de Tous en scène qui sera cette fois-ci consacrée à Vajdi Mouawad. À suivre l'émission 100 ans de cinéma. Bon samedi à toutes et à tous.